Renaissance d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Relier les territoires, désenclaver les régions pour permettre à l'économie de fonctionner mieux, éviter l'exode rural. Le compte n'y est pas encore en Allemagne quand on pense aux télécommunications. Seuls 16% des foyers sont reliés à l'Internet à très haut débit. C'est plus de 70% en France. Un retard dû à un choix fait à l'époque d'Helmut Kohl, des décennies en arrière. Le quasi-monopole sur le réseau naissant avait alors été accordé à l'entreprise Deutsche Telekom, laquelle avait misé sur le cuivre. Une technologie trop lente, abandonnée depuis de nombreuses années dans la majorité des pays européens. Faute d'investissement, dépendante du bon vouloir du géant Deutsche Telekom, l'Allemagne se retrouve tout en bas du classement européen en matière de connexion Internet. Certaines zones rurales doivent même faire face à une absence totale de réseau. Face à cette situation, des citoyens n'ont plus voulu attendre. Dans le nord de l'Allemagne, un reportage de Julien Méchaussy.
Nord de l'Allemagne, dans le Land du Schleswig-Holstein, une zone très rurale. Helga Klint, 70 ans, tente aujourd'hui l'impossible dans son salon, télécharger des photos de famille pour commander un album en ligne. Au bout de longues minutes de patience, cette grand-mère plutôt à l'aise avec les nouvelles technologies se désespère.
Ici, on arrive encore à ouvrir un fichier joint, mais mon ami du village d'à côté m'a dit « pas la peine de m'envoyer d'email, je ne pourrai jamais l'ouvrir ». Nous nous en sortons grâce à l'antenne relais installée ici qui nous permet d'avoir un réseau de téléphonie mobile. Dans le village de ma sœur, Deutsche Telekom lui a dit que sa maison était trop éloignée du centre-bourg pour être reliée. C'est scandaleux, Telekom est encore à 50% une entreprise publique, ça me déçoit vraiment.
Deutsche Telekom, l'objet de la colère de nombreux Allemands qui se battent chaque jour avec une connexion bien trop lente. Mastodonte des télécommunications, l'entreprise a la main mise sur le réseau Internet et rechigne à investir dans les campagnes, faute de rentabilité. À quelques kilomètres du salon d'Helga Klint, une petite révolution est en marche. Ouvrier pelleteuse s'affaire dans un petit village pour poser des tuyaux qui vont enfin apporter l'Internet à très haut débit. Président du regroupement des communes de la région, Wolf Mönkemeyer, observe les travaux avec soulagement.
Tous les grands opérateurs, Deutsche Telekom ou Vodafone, ils ne viennent pas ici parce que ça ne vaut pas le coup pour eux. Ils devraient creuser des tranchées, beaucoup trop longues, pour raccorder les habitants de ces zones rurales. En ville, c'est différent, ils gagnent de l'argent. Nous sommes donc très heureux que les communes se soient associées, qu'elles aient mis sur pied cette initiative et que la fibre arrive enfin.
Dans une région qui compte plusieurs centaines de communes de moins de 500 personnes, maires et citoyens ont pris leur destin numérique en main. Après avoir convaincu les habitants de payer un abonnement de 56 euros par mois et obtenu des prêts bancaires, ils ont contacté une petite entreprise privée qui se charge des travaux de pose. Richard Krause est à la tête de cette initiative citoyenne.
Si nous avions dû attendre les grandes entreprises de télécommunications comme Deutsche Telekom, le calcul est très simple. L'État et Deutsche Telekom relient 2 millions de foyers par an à la fibre, ce qui nous donne 20 ans pour toute la population. Et ici, au Schleswig-Holstein, nous avons dit non. Nous ne voulions pas attendre et nous avons pris les choses en main tout seuls. Au début, on s'est moqué de nous et personne n'y croyait. Mais le vent a tourné. Maintenant, tout le monde nous demande la recette.
Une recette qui a fait ses preuves et de plus en plus copiée à travers tout le pays, selon le maire du village, Wolf Mönkemeyer.
Les besoins numériques ne disparaissent pas une fois arrivés en zone rurale. Nous sommes ici dans une zone qui vit surtout du tourisme. Les vacanciers souhaitent pouvoir regarder une vidéo ou des séries en ligne. Pour toute la région, les habitants, ces travaux vont apporter une vraie plus-value.
Ça ne marche toujours pas.
Retour dans le salon de Helga Klint, alors que ses photos ne veulent toujours pas se télécharger. Elle laisse éclater sa colère.
Cette situation est inacceptable. Avant, le raccordement au réseau de distribution d'eau ou au tout à l'égout, c'était l'affaire de l'État. Eh bien, ce devrait être pareil avec Internet. Il faut que tous les villages aient également accès à Internet. Sinon, l'État faillit à sa mission d'offrir les mêmes chances à tous les citoyens.
L'accès à un réseau haut débit a compté parmi les thèmes majeurs aux dernières élections législatives. La nouvelle coalition qui s'apprête à diriger le pays a promis des investissements massifs. Une promesse non tenue à maintes reprises avec comme premier responsable l'entreprise Deutsche Telekom, laquelle met tout en œuvre pour empêcher l'arrivée de nouveaux acteurs sur le réseau allemand.
Viens, je t'emmène au Belsace et visiter la porte d'Aix. On va faire plein d'affaires et se la régaler dans cette belle artère.
À Marseille, la deuxième ville de France dans le sud, la difficulté se trouve du côté des transports. Difficile de se déplacer sans voiture d'un bout à l'autre de la ville et encore plus pour les habitants des quartiers nord les plus pauvres de Marseille. Les rivalités politiques entre la ville et la métropole n'aident pas à accélérer la modernisation du réseau. Et au final, ce sont les Marseillais qui en pâtissent, Yoram Melloul.
C'est difficile pour les Marseillais de se déplacer dans leur ville. Pour relier le quartier de l'Estac tout au nord jusqu'au Goude tout au sud, il faut prendre 3 bus et compter 1h20 de trajet, 2h30 si vous manquez un bus. Il faut savoir que Marseille est une ville immense, en superficie c'est 2 fois Paris, et pourtant il n'y a que 2 lignes de métro et 3 lignes de tramway, dont l'une qui fait presque le même trajet que le métro. En tout, Marseille compte 35 km de rails urbains, 10 fois moins que la capitale Paris. L'autre problème, c'est la difficulté pour les habitants des quartiers nord à rejoindre le centre. Il se trouve que ces quartiers sont aussi les plus pauvres de la ville et certains font même partie des quartiers les plus pauvres de France. Ils sont souvent pointés du doigt pour le trafic de drogue qui y sévit, le taux de chômage y est élevé et le manque de transport ne facilite bien sûr pas l'accès à l'emploi.
Yoram, c'est maintenant l'État qui s'empare de ce sujet. Emmanuel Macron a demandé à ce que les quartiers nord de la ville soient désenclavés.
Oui, ça s'est passé pendant sa visite à Marseille début septembre. Le président a pris alors un peu des airs de candidat et a annoncé un plan d'1 milliard d'euros pour les transports marseillais, dont 250 millions seront versés par l'État sous forme de subventions. L'objectif ici, c'est de mettre en place de nouvelles lignes de tramway et de bus ou encore d'automatiser le métro. Mais l'initiative fait déjà l'objet de critiques. L'argent semble surtout être dirigé vers des projets de la métropole dans les quartiers sud, ce qui n'est pas vraiment du goût de la majorité municipale de gauche opposée à la métropole de droite. Au final, on ne sait pas encore très bien comment va être réparti cet argent. Emmanuel Macron va revenir dans la ville en février avec des annonces à faire. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que les Marseillais doivent toujours privilégier la voiture ou prendre leur mal en patience dans des bus bondés aux heures de pointe.
Merci Yoram Melloul à Marseille. La pandémie de Covid et les confinements ont accentué le besoin de travailler dans la nature, loin de l'enfermement des villes. En Italie, une entreprise milanaise, Borgo Office, propose de mettre à disposition des chambres d'hôtes dans les plus beaux villages d'Italie aux professionnels qui souhaiteraient un autre cadre de travail s'ils achètent en échange des spécialités locales. C'est un reportage d'Olivier Bonnel.
Nous sommes à la coopérative agricole Cobragor, située aux portes de Rome dans un parc régional naturel protégé. Autour d'une grande bâtisse s'étendent un potager, des vergers et des champs d'oliviers. À la Cobragor, on fait de la vente directe de fruits et de légumes bio, des sorties scolaires au vert y sont organisées. Et bientôt, un autre type de visiteurs devrait s'y retrouver, des télétravailleurs. Francesca est la responsable de cette structure.
Ils nous ont contactés l'an dernier durant la pandémie en nous demandant si on était intéressés par le projet. Comme on avait des bons produits et aussi la volonté de nous ouvrir à d'autres publics, on a adhéré en proposant des packs en fonction du temps de séjour. On propose donc le gîte et des produits comme une bouteille d'huile d'olive, de la confiture, des fruits et des légumes frais de saison. Et je dois dire que c'est vraiment une belle idée.
Francesca nous montre une grande pièce qui donne sur la cour de la ferme, un espace qui doit être encore aménagé mais qui sera parfait pour travailler avec le Wi-Fi et une imprimante.
Le fait que l'on soit encore dans la commune de Rome mais en pleine nature est un atout important. Et pour les personnes qui ne peuvent pas travailler à la maison par manque de place ou parce que les enfants ne vont pas à l'école, c'est une situation idéale. C'est le fondement principal de Borgo Office.
C'est Federico Pisanti, le fondateur de Borgo Office, qui a eu l'idée de reconnecter le monde professionnel et la campagne, persuadé que le rapport au travail est en train de changer.
C'est une occasion pour une rupture de la vie dans la ville, dans les appartements, parce que les gens ne veulent plus travailler après un an dans les appartements. Ils ont besoin de travailler dans la nature. Et donc c'est une occasion pour laisser la ville. Mais on est aussi convaincu que ce modèle peut continuer même quand la pandémie sera terminée, parce que c'est l'occasion pour faire un break, une rupture de la vie quotidienne. C'est vrai que c'est surtout pour les travailleurs dans le monde du numérique et du digital, mais on a vu aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des managers, des freelances qui font cette expérience parce qu'ils veulent réfléchir. C'est une occasion pour eux pour dire « Ok, je me prends une semaine pour réfléchir, je travaille, mais en même temps, je veux changer ma vie pour une semaine. »
Alessia habite Salerno, au nord de Naples. Grâce à Borgo Office, elle a traversé l'Italie pour Paderna, un joli village sur les collines du Piémont où elle a passé une semaine à travailler dans le vert et le calme. Une coupure importante est nécessaire pour elle.
Ça a vraiment été une belle expérience, aussi bien sur un plan psychologique que professionnel. Je passais mes journées devant un écran et là, la possibilité de travailler face à des collines a vraiment donné un autre goût au travail.
Dans son gîte rural piémontais, Alessia a pu notamment profiter des figues et des confitures qui y sont produites, car c'est bien cela aussi l'une des intuitions de Borgo Office, refaire découvrir la richesse exceptionnelle du patrimoine des villages et des terroirs italiens. Federico Pisanti.
On pourrait suivre les temps de l'agriculture, donc on pourrait partir avec les olives en septembre pour faire l'huile d'olive en Toscane, après on pourrait aller en octobre pour les truffes en Piémonte, on pourrait aller en Sicile pour les agrumes en mai, donc on peut suivre les productions agricoles selon le moment de l'année. Avant, on était habitué que les breaks, c'était d'aller sur un avion pour aller visiter Paris, Londres, Madrid, on peut faire le week-end. Et c'est une occasion là maintenant de connaître le tourisme de proximité, donc connaître les territoires aussi, ce qu'on a à 20 km, 100 km, on ne connaissait pas même si on l'avait ici.
Du Piémont à la Toscane, en passant par la Sicile ou les Pouilles, Borgo Office propose désormais des séjours dans une quarantaine de villages et gîtes ruraux en Italie et espère élargir encore sa liste de bureaux à la campagne. You don't have symptoms, so you think I'm not inside your ass, KD. I'm the real easy money sniper, I'm a virus. Not the type of virus on your laptop, harm rich people. I murder the hell.
En pleine nouvelle vague de Covid, les théories anti-vaccins ont le vent en poupe dans les Balkans. Les manifestations contre la dictature sanitaire se multiplient. En Serbie, les anti-vax s'affichent même à la une des principaux médias avec le soutien tacite des autorités. Ailleurs, ils sont moins visibles, mais tout aussi remontés, Simon Rico.
Ces anti-vax balkaniques, proches des puissants réseaux d'extrême droite et des clergés intégristes, profitent de la confusion idéologique qui règne dans des pays en proie à des dérives autoritaires pour se poser en résistant à l'ordre mondial. Et ils peuvent se targuer d'un soutien médiatique de choix, celui de Novak Djokovic. Le numéro 1 serbe du tennis mondial masculin s'est par exemple affiché auprès du gourou New Age, Semir Osmanagic, pour vanter les effets curatifs des controversées pyramides bosniennes que le gourou dit avoir découverte dans les années 2000. Si rien n'est prouvé sur la guérison grâce à ces prétendues pyramides, un fait est en revanche acquis. La Bosnie-Herzégovine affiche le taux de vaccination contre le Covid-19 le plus bas d'Europe et l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde. La situation est comparable dans tous les Balkans où la vaccination plafonne bien au-dessous de la moyenne européenne et où la quatrième vague de l'épidémie fait partout des ravages. D'autant plus que les systèmes de soins locaux, laminés par trois décennies de politique d'austérité et d'exode massif des personnels, ont toutes les peines à faire face.
En un mot nous emmène en Grèce pour un mot valise, le greeklish. Il mélange greek et english, le grec et l'anglais. Ce terme au départ désigne le fait d'écrire en grec avec l'alphabet latin qui est utilisé en particulier dans la langue anglaise. Et la crise sanitaire a donné au greeklish un nouveau relief. À Athènes, Joël Brunner.
À la faveur du Covid, toute une série de mots anglais ont contaminé la langue grecque et se sont notamment répandus par l'intermédiaire du discours politique et médiatique. Début novembre, pour une nouvelle série de mesures relatives à la pandémie, Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre, s'adresse en ces termes à la Voulie, le Parlement grec. Tout d'abord, il n'y aura pas de nouveau lockdown dans le pays. Pas de nouveau lockdown, comprenez, pas de nouveau confinement. En grec, l'expression adéquate serait apagorevsi kyklophorias, mot à mot, interdiction de circuler. Mais problème, ces termes un peu trop vagues peuvent également désigner le couvre-feu. Par conséquent, en parallèle, son équivalent anglais curfew s'est lui aussi répandu dans la langue grecque. Et au final, pour le confinement, l'anglais lockdown s'est totalement imposé, au point de faire oublier l'expression grecque consacrée. C'est ce qu'explique Louisa, 34 ans.
J'essaye généralement de ne pas utiliser de mots anglais quand je parle grec, mais il arrive qu'il n'y ait pas d'alternative. En particulier avec le vocabulaire relatif au Covid, c'est devenu plus facile d'utiliser certains termes anglais. Je ne sais pas comment traduire « lockdown », le confinement, en grec. Quand j'entends des gens utiliser le mot grec « quarantaine », je les corrige en disant que ce n'est pas une quarantaine, mais un lockdown, parce que le sens n'est pas le même. Même si je sais que ce n'est pas un mot grec et que son emploi est impropre.
Un nouveau mètre prolipsis, le self-test. Le self-test est un αξιόπιστο εργαλείο autodiagnostique.
Et le lockdown, cet anglicisme pour désigner le confinement, n'est que la pointe de l'iceberg linguistique du Greeklish vis-à-vis du lexique de la pandémie. Depuis le début de la crise sanitaire, la majorité des mesures imposées occasionnellement dans les commerces, prise de rendez-vous en ligne ou bien commandes sur Internet, ont systématiquement été affublées d'un vocable anglo-saxon. Ainsi, la Grèce s'est mise successivement à l'heure du click-away, du click-out, du click-and-collect, du click-and-shop ou encore du delivery. Même destin pour les tests antigéniques, qualifiés au quotidien de rapid test ou de self-test, transformant le grec en un variant du Greeklish. Black Friday for parity. Oh yeah. Black Friday so Germano. Si so Santo Americano. Erchete like an eagle. Impossible d'y échapper dans l'actualité de la semaine dernière en Grèce. Mais là encore, ce n'est pas le Mavro Paraskevi qui a inondé les publicités et les médias, pas de vendredi noir, mais bien le Black Friday, jour de promotion et de soldes consacré à la consommation de masse. Un concept directement importé des États-Unis. Même si en l'occurrence, Eleni Galanopoulou, qui enseigne le grec, explique qu'il existe pour ceci des raisons culturelles.
Chaque langue a ses propres connotations et les mots ont leur spécificité. Utiliser directement l'expression « vendredi noir » en grec donnerait l'idée d'un jour très triste, sans aucun sentiment de joie. Un événement malheureux, en somme. Dans la langue grecque, il serait donc difficile de traduire l'expression « Black Friday » en la transformant en « Mavri Paraskevi », c'est-à-dire « vendredi noir ».
Cette difficulté de traduction particulière ne masque pas cependant l'influence croissante de l'anglais dans la langue grecque. L'enseignante estime cependant qu'au-delà du Greeklish, la culture actuelle des jeunes grecs tend progressivement à introduire des mots d'origine plus diverses, en particulier sous l'influence de la mondialisation de l'audiovisuel.
Cela fait des années que ce problème d'influence de l'anglais se pose, notamment avec la technologie et le vocabulaire en lien avec les ordinateurs, les téléphones portables. Mais de mon point de vue, la jeune génération est en train de créer une nouvelle culture qui prend place après celle de la culture américaine. Parce qu'en Grèce, nous avions l'habitude de regarder de très nombreux films américains issus du cinéma hollywoodien, donc cette culture, nous l'avions. À présent, nous nous situons dans une culture postérieure, avec des mots d'autres origines qui entrent dans la langue. Je pense donc que progressivement, dans la langue grecque, nous utilisons de plus en plus en réalité un amalgame de mots étrangers.
Serait-ce la fin de la prédominance du seul Greeklish en grec ? L'exemple des nombreux mots anglais, engendrés par le contexte de la pandémie, semble prouver que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais le Greeklish principal, celui qui a toutes les chances de continuer sa carrière de langue parallèle, et c'est d'ailleurs le sens initial de l'expression, consiste à écrire le grec avec des caractères latins, comme en anglais donc. Un usage phonétique, notamment assez fréquent sur les plateformes de messageries instantanées. Pour ses adeptes, cette pratique est jugée plus facile et plus rapide dans certaines circonstances. Pour ne pas changer de clavier sur son téléphone portable, gagner du temps en n'accentuant pas les mots, ou encore s'éviter tout simplement la présence de trop nombreuses fautes d'orthographe.
Merci Joël, bonne journée. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.